Des hommes? Non. Des femmes? Non. Des robots? Non. Des surhommes? Implacables. Insaisissables. Invincibles. Insensibles. Aux ordres d'une super-organisation criminelle. Impossible. Rien n'est impossible pour
Culture Prohibée.
Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panel du Ciboulot, animée par l'équipe des Films de la Gorgone. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.lesfilmsdelagorgone.fr. Nos précédentes émissions, déjà diffusées sur cette antenne, sont disponibles sur Deezer, iTunes, Podcloud, Spotify. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un blog, culture-prohibée.blogspot.com. Sommaire aujourd'hui, une émission entièrement consacrée à la comédie musicale. Eh oui. Qui aurait pu prévoir qu'un jour Culture Prohibée s'intéresserait à la comédie musicale? Mais il n'y a pas de barrière dans notre rédaction. Et donc on va parler, si on parle comédie musicale, c'est parce qu'il y a le dictionnaire de la comédie musicale qui vient de sortir chez Vendémiaire, qui est signé Isabelle Volguste, que l'on retrouvera en deuxième partie d'émission. Mais on va parler, nous, de nos comédies musicales préférées. Chaque rédacteur a sélectionné une comédie musicale, une de ses comédies musicales bien aimées. Il y aura West Side Story de Robert Wise, All That Jazz, que le spectacle commence, de Bob Fosse, et The Rocky Horror Picture Show de Jim Sharman. L'équipe de Culture Prohibée remercie pour leur aide sur cette émission Élise Amar et Franck Laffont. Pour causer comédie musicale, pour danser, chanter autour de cette table, pour faire que notre émission soit uniquement prononcée en chanson, hein, comme dans un film de Jacques Demy, je suis accompagné aujourd'hui de John Ferré, dit l'homme mystère, et Valée de l'échoppe fièrement indépendante nommée Librairie des Signes, librairiedessignes.com. Bonjour John.
Bonjour à toutes et à tous.
Et à ma gauche, il y a le loup-garou Picard. Le loup-garou Picard qui, chaque nuit de pleine lune, rédige de sanglantes critiques pour le compte de Vidéotopsie, vidéotopsie.blogspot.fr et culturopoint.com. Bonjour Thomas.
Bon, moi je ne chante pas, je hurle à la lune, mais je vous dis quand même bonjour Gégé, bonjour John et évidemment bonjour à toutes.
John, tu es venu dans ta besace avec un film que moi j'aime beaucoup, pour un réalisateur peu prolifique que j'aime également beaucoup. Il s'appelle Bob Fosse, et le film dont tu vas nous parler, c'est
All That Jazz, en français, que le spectacle commence.
Donc, Bob Fosse, réalisateur et chorégraphe né à Chicago. Et Bob Fosse est un enfant de la balle. Son père était comédien de boulevard. Donc, il a traîné vraiment dans tout ce milieu du théâtre, du cinéma. C'est un réalisateur aussi primé aux Oscars pour Cabaret, mais aussi pour le fameux All That Jazz qui avait été primé au Festival de Cannes. Réalisateur méconnu aussi d'une petite pépite que je vous invite à découvrir, qui était Star 80. Dernier film, je crois, de sa filmographie, si je ne dis pas trop de bêtises. Donc, All That Jazz, c'est l'histoire en fait d'un chorégraphe, Joe Gideon, qui commence toujours sa journée en entonnant cette phrase maintenant célèbre « Showtime's folks ». Et donc, ce chorégraphe est un peu borderline. C'est un alcoolique, un drogué, un coureur de jupons invétéré, mais qui va connaître un infarctus. Donc ça, c'est vraiment pour le pitch du film. Mais bien sûr, avec Bob Fosse, tout ça va au-delà de ce pitch. On assiste à des premières scènes. D'ailleurs, la première image du film, c'est quand même ce chorégraphe qui tombe comme ça sur un filet. Donc on va assister en fait à la chute de ce chorégraphe. Il monte un nouveau spectacle et d'ailleurs dans ce spectacle-là, on voit, et moi c'est ce qui m'avait étonné la première fois que je l'avais vu, c'est qu'on voit le casting du spectacle qui se prépare dans un grand théâtre. Et là, on assiste d'une façon, je trouve moi, assez réaliste à tout le casting des jeunes danseurs. Alors, c'est un film, comme je le disais auparavant, qui va vraiment au-delà de tout ça, puisque c'est un film qui ne parle pratiquement que de la mort. On pourrait peut-être même le qualifier de film métaphysique à ce point-là. Il y a Jessica Lange qui apparaît dans ce film-là, qui est assimilée à la mort, qui est en fait la mort, hein, qui la rencontre toujours dans un décor. Alors ça, moi, c'est ce que j'en ai tiré. Je ne sais pas si j'ai raison ou pas, mais je vais quand même vous donner l'impression. Elle le rencontre toujours dans un décor, une sorte de grenier où il y a énormément de bazar. Et j'ai toujours l'impression qu'on est dans la tête, justement, du chorégraphe dans ce film-là. On se balade avec Joe au cours de danse et de casting. C'est un film moderne qui rend hommage à beaucoup de comédies musicales, parce que on voit à un moment, il y a une scène où Roy Scheider, qui d'ailleurs pour moi tient là son meilleur rôle, il est à l'hôpital et il danse dans des sous-sols, et ça fait étrangement penser à la comédie musicale qui était Chantons sous la pluie, quand Gene Kelly danse dans l'eau. Bob Fosse, dans son film, aborde vraiment tous les médiums du cinéma, c'est-à-dire que sur l'image, mais aussi sur le son, avec une scène assez hallucinante où en fait toute la troupe est réunie pour faire des lectures de la pièce. Et là, Bob Fosse prend le parti de couper tout le son. Et on n'entend en fait que les bruits de Roy Scheider qui casse un crayon, qui écrase une cigarette, ce qui a pour effet un peu de l'isoler un peu de tout ce brouhaha des premières lectures. Voilà ce que je peux en dire. C'est un film sur les affres de la création aussi, où on se demande, puisque en même temps qu'il chorégraphie le spectacle, il fait aussi le montage de son documentaire sur Lenny. Donc voilà, on l'a compris, hein, le chorégraphe et l'alter ego de Bob Fosse dans le film. Et il y a aussi une dernière très belle scène, vous verrez. C'est une scène parce que le chorégraphe est marié à plusieurs femme avec lui, mais il a aussi une fille. Et il est tellement submergé dans son travail que les moments d'intimité qu'un père peut avoir avec une fille, eh ben Bob Fosse la met en scène d'une façon assez originale, puisqu'il danse avec sa fille en lui apprenant quelques pas de danse. Et en même temps, bah, c'est un rapprochement que lui, malheureusement, ne peut pas avoir, parce qu'on voit bien que ce personnage-là est vraiment trop hanté par son travail et que la vie de famille n'a plus lieu d'être dans tout ce qu'il peut avoir. Et la dernière grande scène, qui est lorsqu'il est à l'hôpital, et il y a toute une sorte de projection avec un ballet à la fin où on parle de son cœur, on parle de bye-bye, loneliness. Il y a tout ça. Bob Fosse, dans ce film-là, c'est une somme de beaucoup de choses. Moi, qui m'a beaucoup ému et qui m'a encore énormément ému pour refaire cette émission.
Écoute, il y a aussi quelque chose, ouais, que tu n'as pas dit, mais qui est aussi importante dans le film. Alors, il y a les numéros de danse aussi, parce que c'est quand même un chorégraphe de dingue, Bob Fosse. Mais il y a tout l'aspect aussi sur le fait que le personnage incarné par Roy Scheider, c'est Bob Fosse, c'est son alter ego.
C'est ça.
Que Bob Fosse, bah, il fait une première crise cardiaque en 1974, au moment où il fait le film sur Lenny Bruce. très bon film avec Dustin Hoffman en noir et blanc que j'ai revu il n'y a pas longtemps. C'est vrai que lors de sa sortie en Blu-ray, là, qui est vraiment excellent, qui avec le temps s'améliore. Et Bob Fosse, il sait qu'il a une santé fragile. Alors, tu as parlé de Star 80. Pour rebondir un peu sur des précédentes émissions, c'est Star 80, c'est aussi sur la mort de Dorothy Stratton, qui était une playmate et qui a été assassinée. Et d'ailleurs, là, il donne un de ses meilleurs rôles à Eric Roberts, Bob Fosse, parce que c'est aussi un formidable directeur d'acteur. Tu le rappelais là dans le final que tu as cité. Mais moi, ce qui m'intéresse vachement dans All That Jazz, c'est effectivement que c'est un film sur Bob Fosse. C'est un film sur un créateur qui se bat pour faire ce film. Il a dû se battre. Hein, qui aussi se sait en danger au niveau de sa santé. Parce que Bob Fosse, il est comme ça, il bosse tout le temps en fait, c'est un malade de boulot. Et ce qu'il décrit dans le film, c'est aussi sa vie, quoi.
C'est aussi sa vie, mais c'est aussi... C'est-à-dire que ça ne ressemble pas du tout au canon de la comédie musicale comme on pourrait se l'imaginer, mais il rend quand même hommage à tout ce pan de comédie par des petites scènes ou des petits clins d'œil.
Vous écoutez Culture Prohibée.
Bye bye, my life.
Oh yeah.
Good bye.
Pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Et donc, tu as cité plusieurs séquences qui, pour moi, sont... À partir du moment où un film où on retient 3-4 séquences, c'est un grand film. Notamment, il y a le final, où il chante, Bye Bye Life, Bye Bye Happiness, Hello Loneliness. Emptiness, oui. Où justement il meurt, quoi. Et il y a aussi cette séquence où on voit en train de répéter une chorégraphie très érotique, avec un jeu de lumière en contre-jour. C'est une très très grande séquence, extrêmement découpée, super bien montée. Il y a aussi cette séquence où il coupe le son, on n'entend que les sons qui sont sa propre angoisse, l'angoisse du créateur face à sa création l'angoisse du créateur, quoi. Et pour moi, c'est un très grand film avec des plans superbes. Tu parlais aussi de ce plan qui fait référence à Chantons sous la pluie. Effectivement, c'est un plan magnifique en plongée où on le voit danser dans des flaques d'eau, dans un décor blanc de tuyauterie blanche et lui il est en blouse blanche. C'est un superbe film. Pour moi, c'est un très grand film. C'est même l'un de mes films préférés.
Et même, on voit par rapport à ça un peu tous les côtés du spectacle, parce qu'il y a cette fameuse discussion avec les assureurs et les producteurs de spectacles. De mémoire, j'ai jamais vu des scènes comme ça où on voit l'arrière-boutique. C'est-à-dire, mais d'ailleurs, tout est l'arrière-boutique, puisqu'à un moment, il filme aussi quand il est dans son lit d'hôpital et Bob Fosse, enfin pas Bob Fosse, mais Roy Scheider prend encore le rôle de Bob Fosse à la grue caméra et il vient le filmer comme ça en lui demandant est-ce que c'est bon. Enfin, je veux dire, c'est rempli d'idées, c'est très moderne, mais en même temps, ça rend hommage à toutes ces comédies musicales.
Et puis le final, la musique de Ralph Burns, ce côté un peu funky, la façon dont il filme la mort du personnage, c'est génial, la façon dont c'est monté, dont c'est découpé. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre.
Bah, restons dans ce qui est considéré aussi comme un chef-d'œuvre du 7e art, hein, c'est West Side Story de Robert Wise, réalisateur d'ailleurs. Robert Wise, réalisateur mésestimé, qui a regagné ses galons depuis qu'une nouvelle génération de critiques a réévalué son travail. Le réalisateur de La Maison du Diable, qui donc, mais aussi le réalisateur de La Mélodie du Bonheur, et donc de West Side Story, mon cher Thomas.
West Side Story, dont il n'est pas le seul réalisateur. West Side Story a aussi été réalisé par
Jérôme Robbins.
Mmh. Donc West Side Story s'inspire de façon officieuse de la pièce de William Shakespeare, Roméo et Juliette, sauf que les Capulet et les Montaigu laissent la place cette fois à des bandes rivales, les Jets et les Sharks. Et avant de devenir un film, West Side Story est un ballet conçu, chorégraphié et mis en scène par Jérôme Robbins, lui-même chorégraphe, metteur en scène, danseur et producteur de théâtre qui fit des ballets sur Broadway, notamment avec Bob Fosse, mais travaille aussi au cinéma et à la télévision. Donc l'action se déroule dans le quartier populaire de Hell's Kitchen avec une musique de Leonard Bernstein et des paroles de Steven Sondheim qui collabore pour la première fois avec Robbins. Alors pour que les acteurs se sentent complètement dans leur rôle lors du ballet, Jérôme Robbins n'autorise pas les interprètes des bandes rivales à se rencontrer en dehors de la scène. Et durant le tournage du film, les acteurs se faisaient aussi des plaisanteries entre les scènes afin que la tension entre eux soit encore palpable à l'écran. Donc Robert Wise se voit offrir la réalisation du film par les producteurs parce qu'ils avaient estimé qu'il avait su restituer un New York urbain dans Le coup de l'escalier qu'il réalise en 1959. Seulement, Jérôme Robbins veut co-réaliser, Wise n'ayant jamais eu à diriger des scènes de danse. Alors, au bout de 4 séquences, Robbins s'est viré par la My Irish Company parce qu'il explosait le budget et le plan de travail du tournage. On lui doit pourtant des séquences admirablement réalisées, comme celle qui ouvre le film et pose l'enjeu principal de l'intrigue, la rivalité entre les Jets et les Sharks. Le découpage est dynamique et bénéficie d'une grande maîtrise de l'espace. Vraiment, c'est un sans faute. Et malgré un tournage en studio qui peut lui donner un aspect désuet, West Side Story s'avère toujours malheureusement plus que jamais d'actualité. Les Jets sont des Blancs qui s'opposent aux Sharks car issus de l'immigration en provenance de l'île de Porto Rico, État libre pourtant associé aux États-Unis, qui fut cédé par l'Espagne en 1899. Le film de Robert Wise et Jérôme Robbins évoque donc le racisme et le communautarisme, chacune des deux bandes refusant d'écouter l'autre, de se mélanger. Sur ce message politique va se greffer une histoire d'amour, forcément tragique et digne de la pièce dont elle s'inspire. Un membre des Jets, Tony, va rencontrer Maria, sœur du chef des Sharks, lors d'un bal. Immédiatement, c'est le coup de foudre entre les deux jeunes gens. On comprend Tony parce que Marie, elle est interprétée par Natalie Wood. Alors seulement, les choses, au lieu de s'améliorer, vont bien évidemment s'envenimer. Bien sûr, West Side Story déconstruit l'escalade de la haine et ses conséquences, mais peut aussi se voir comme une œuvre féministe. En effet, les femmes s'avèrent bien plus intelligentes que les hommes, notamment à travers le rôle d'Anita, la petite amie du chef des Sharks, qui prend les traits de Rita Moreno, que l'on a pu voir toute jeune et belle dans un film chroniqué dans cette émission il y a quelques temps déjà, So Young, So Bad. Elle tient d'ailleurs tête lors d'une des plus célèbres séquences du film, celle liée à la chanson America. Elle tient tête à son frère, qui est le chef des Sharks. Alors, West Side Story est l'une des plus belles réussites de Robert Wise, qui récolta d'ailleurs plusieurs récompenses, que ce soit meilleur réalisateur pour la musique, le montage, la direction de la photographie, mais aussi pour George Chakiris, qui joue le chef des Sharks, ainsi que pour Rita Moreno.
Streaming and the natives steaming. I like the island Manhattan.
I know you do.
Smoke on your pipe and put let it.
I like to be in America. Okay, by me in America. Everything free in America.
For a smoke, be in America.
Credit is so nice.
One look at us and they charge twice.
I have my own washing machine.
What will you have though to keep clean?
Skyscrapers bloom in America. Cadillac bloom in America. Industry boom in America.
Wealth in a room in America.
Lots of new housing with more space.
Lots of doors slamming in our face.
I'll get a terrace apartment.
Better get rid of your accent.
Life can be bright in America.
If you can fight in America.
Life is all right in America.
If you're all white in America.
As you stay on your own side.
Free to be anything you choose.
Free to wear devils and shine shoes.
Everywhere crime in America. Organized crime in America. Terrible time in America.
You forget I'm in America.
I go back to San Juan.
I know a boat you can get on. Bye-bye.
Everyone there will give big cheers.
Everyone there will have moved here.
Thank you.
Vous écoutez Culture Prohibée, spéciale comédie musicale. Eh bien les amis, moi je vais rester dans les films qui luttent contre les préjugés, voilà, et qui luttent même très fort, à base de travestis gentils venus d'autres planètes et tout ça, puisque je vais vous parler du Rocky Horror Picture Show, le Rocky Horror Picture Show, qui est un film avec un pitch de série B, classique, hein, Brad et Janet décident de se demander en mariage. Alors Brad et Janet, Janet c'est Suzanne Sarandon, hein, dans un de ses premiers rôles, et puis Brad c'est un acteur inexpressif américain qu'on a revu dans pas mal de séries, qui est assez drôle en fait, qui est Barry Bostwick, hein, qui est plus un acteur comique, voilà. Et donc avec leur tête de premier de la classe, hein, ils décident d'aller annoncer à leur ancien professeur de sciences, hein, le professeur Scott, qu'ils vont se marier. Ils sont tout fiers, mais malheureusement, partant de pluie, eh bien, un pneu se crève, il tombe en panne et ils sont obligés de se réfugier dans un étrange château. Ils sont trempés jusqu'aux os et ils se retrouvent dans un château très, 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 très bizarre qui est dirigé par un docteur qui s'appelle le docteur Frankenfurter, voilà, où des gens chantent plein de chansons qui font l'apologie de l'alcool, du voyeurisme, de l'usage de la drogue. Il y aura même une apologie du cannibalisme, parce que c'est comme ça, le Rocky Horror Picture Show, on décide de défoncer tous les tabous dans tous les sens du terme. Et puis, ce Frankenfurter, c'est quand même, comme il se décrit dans une chanson, un gentil travesti qui vient de transsexuel en Transylvanie. Voilà, c'est une partie de la Transylvanie que je ne connaissais pas, mais qui se doit être vrai puisque c'est dans un film. Hein, voilà, donc le Rocky Horror Picture Show, bien sûr. Alors, dans tout ça, il y a aussi des méchants nazis, il y a Meatloaf, hein, qui vient chanter. Et puis, il y a surtout la création de Rocky. Rocky qui est créé par le docteur Frankenfurter, qui est un bel effet que le docteur Frankenfurter, alors scientifique complètement ouf-dingue, campé par Tim Curry, qui est génial, hein, dans le film, et surtout qui est extraordinairement bien habillé. Je veux dire, comme tous les docteurs, il porte des barésies, des talons aiguilles, tout ça, voilà, c'est assez fantastique.
Et maquillé aussi.
Et très maquillé, effectivement, c'est peu de le dire. Et puis il crée ce monstre Rocky, qu'il a bien envie, Rocky, qu'il a bien envie, comment dire, d'amener au septième ciel en passant par la petite porte, mais ça ne va pas se passer comme prévu. Parce que, bon, bah, Frankenfurter, personnage quand même dévoué, hein, comment dire, va apprendre les plaisirs du sexe à ses invités. Mmh. Et puis, la nuit, il va aller faire l'amour et à Janet et à Brad, voilà, en leur mentant un peu, hein, voilà, mais... Bon, Brad va alors découvrir qu'il aime plutôt bien l'homosexualité. Et puis, Janet va découvrir qu'elle est une énorme nymphomane, puisque du coup, elle n'est pas contente du tout. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se réfugier dans les bras de Rocky. Et Rocky, la créature créée par le transsexuel pour des pratiques homosexuelles, va se révéler hétérosexuelle. Oh là là, c'est très compliqué tout ça. Et en fin de compte, on n'est peut-être pas dans un château, mais peut-être dans une soucoupe volante. Et puis peut-être qu'il y a des méchants nazis et que le professeur Scott, c'était en fait un vilain nazi atteint du syndrome du docteur Follamour, avec le bras qui se lève automatiquement avec des envies de Troisième Reich. Voilà, alors vous l'avez compris. C'est pas très sérieux, c'est un film un peu fou, quoi. Voilà, et quand le film sort, il sort vraiment pas dans la bonne période. C'est-à-dire que c'est un film complètement libertaire, hein, qui brise tous les tabous. Encore aujourd'hui, c'est un film incroyablement transgressif. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il est toujours à l'affiche de nombreux cinémas dans le monde aujourd'hui. C'est pas un film. C'est pas la qualité de la mise en scène qui vient sauver ce film, hein.
Ah, c'est sûr.
C'est mis en scène à la va comme je te pousse, mais on s'en fout, c'est le délire, l'énergie déployée par l'équipe. Il faut dire que il y a une suite, hein, d'ailleurs en 81 avec Jessica Harper, qui s'appelle Chuck Treatment, qui est pareil, qui est rigolote, sans un grand intérêt, mais qui est rigolote, mais qui est un peu moins bien. Mais il faut dire aussi là que dans l'équipe, dans le casting, il y a Richard O'Brien qui interprète Riff Raff, et Patricia Quinn qui interprète Magenta, hein, qui sont les deux personnages qui accueillent nos héros quand ils arrivent. Et Riff Raff et Magenta, en fait, ce sont les vrais auteurs de cette pièce, qui est d'abord un spectacle musical, avant d'être un film. Et quand le film sort... il marche pas du tout, hein. Le film sort en 75, le film fonctionne pas, Il est quand même produit par la 20th Century Fox, hein, et il ne fonctionne pas du tout. Et ce qui va se passer, c'est qu'il va être intégré dans les fameuses séances de minuit, hein, à New York, hein, et là, le film va devenir complètement culte. Toute la communauté gay, bi, transsexuelle va s'emparer du film pour en faire un véritable phénomène, et puis aussi la communauté cinéphile, parce que dès le début du film, le film débute par une bouche qui chante. Il faut dire que la bande originale glam rock est super bien, hein, voilà, si on aime le glam rock. Pour les fans de Mark Bolan, c'est du tout bon. Et puis le film débute par une chanson qui cite pêle-mêle, hein, je vous fais pas tout, hein, les doubles programmes, Le jour où la Terre s'arrête, Flash Gordon, L'homme invisible, Claude Reims, King Kong, Fayeway, Le météore de la nuit, Dr. X, enfin voilà, plein de choses. À noter qu'il y a aussi plein de subtiles références. Par exemple, il y a un tatouage 47-11 sur la jambe de Frankenfurter, ça ne veut pas dire grand-chose pour nous aujourd'hui. C'était l'eau de Cologne qui était utilisée dans les milieux homosexuels dans les années 70, par exemple. Alors le film est plein de détails comme ça. Il est totalement fun, il souffle sur ce film un esprit libertaire. Et pourtant, ça ne marche pas. Pourquoi ? Bah parce qu'on est après Altamonte, on est après 69, on est après les crimes de la famille Manson. C'est-à-dire que les idéaux hippies, on n'en veut plus, quoi. Tout le monde couche ensemble, les partous, les machins, tout ça. Voilà, c'est retombé. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui ne parle plus aux gens, quoi. Et c'est en séance de minuit que le film va réexister, va devenir culte en fait. Le film qui était programmé pour faire un four va devenir un succès. Et c'est en fait le film qui est resté le plus longtemps à l'affiche de toute l'histoire du cinéma. Et c'est aussi un film qui, en 2005, a été, aussi étonnant que ça puisse paraître, intégré à la Bibliothèque du Congrès des États-Unis pour son importance culturelle, historique ou esthétique. Voilà, au choix, les trois ou l'un des trois. Voilà. Pour moi, c'est un film qui est un sommet de transgression, hein, et dont uniquement le fond retient l'attention, voilà, et qu'on est sur un film où les morceaux de bravoure s'enchaînent, et plus on avance dans le film, plus les tabous sont brisés. C'est-à-dire que ça va de plus en plus loin, de plus en plus loin, de plus en plus loin. Puis à un moment, on arrive au cannibalisme, parce qu'après tout, puisque tout le monde couche avec tout le monde, on peut aussi se manger, quoi. Voilà, on en arrive là. Et puis, c'est un film, c'est le film de la révolution sexuelle, hein, on peut le dire, avec tout de même un final assez étrange, parce qu'un final très triste, en même temps, qui marque bien la fin des idéaux, quoi. Un final vraiment assez dur et triste. Et puis, bon, bah, pour la petite anecdote quand même, c'est tourné au château Hoclécourt, le château où ont été tournés beaucoup de films de la Hammer, et surtout, c'est le château où le général de Gaulle fait en 1940 son discours de l'appel du 18 juin, pour l'anecdote. C'est assez rigolo. On passe du général de Gaulle. Je ne sais pas s'il aurait été d'accord avec ce gentil transsexuel, le général de Gaulle. Mais voilà, le monde avait changé.
L'a-t-il compris ?
How do you do, I see you've met my faithful hand in hand. He's just a little brought down, because when you knocked, he thought you were the candy man. Don't get strung up by the way I look. Don't judge a book by its cover. I'm not much of a man by the light of day, but by night I'm one hell of a lover. I'm just a sweet transvestite from transsexual Transylvania. Let me show you around and maybe play you a sign. You look like you're both pretty groovy. Or if you want something visual that's not too abysmal, we could take in an old Steve Reeves movie.
I'm glad we caught you at home. Could we use your phone? We're both in a bit of a hurry.
Right.
We'll just say where we are, then go back to the car. We don't want to be any worry.
Well, you got caught with a flat wheel. How about that? Well, babies, don't you panic. By the light of the night,
it'll all seem all right. I'll get you a satanic mechanic. I'm just a sweet transvestite. From transsexual Transylvania. Why don't you stay for the night?
Night.
Or maybe a bite.
Bite.
I could show you my favorite obsession. I've been making a man with blonde hair and a tan, and he's good for relieving my tension. I'm just a sweet transvestite from transsexual Transylvania. Hey, hey, I'm just a sweet transvestite from transsexual Transylvania. So, come up to the lab and see what's on the slab. I see you shiver with anticipation. But maybe the rain is really to blame. So I'll remove the cause.
Vous écoutez Culture Prohibée.
But not the symptom.
Après ces quelques comédies musicales de notre choix, je trouve qu'ils représentent bien le panel, la largesse d'esprit de notre émission. Voilà. Nous allons écouter Isabelle Volguste, qui a donc signé un dictionnaire de la comédie musicale paru aux éditions Vendémiaire. Tout de suite, Isabelle Volguste au micro de Culture Prohibée. Pourquoi le choix d'un dictionnaire consacré à la comédie musicale? Parce que c'est titanesque comme travail de décrire un dictionnaire.
C'est tout à fait titanesque. C'est surtout un dictionnaire de la comédie musicale au cinéma. Et en fait, je suis fan de comédie musicale depuis toujours, et ça n'existait pas. Donc je me suis dit qu'il fallait combler ce vide, en fait. Il y a pas mal de choses aux États-Unis sur la comédie musicale, mais spécifiquement sur la comédie musicale américaine, mais il n'y avait pas de dictionnaire, et surtout pas en France.
Et elle vous vient d'où, cette passion pour la comédie musicale ?
Je crois que je suis tombée dedans quand j'étais petite. La première fois que j'ai vu Fred Astaire danser, je me suis dit que tout était possible et que c'était absolument merveilleux. Et je devais avoir 5-6 ans, je crois.
D'accord, donc ça remonte à loin. Alors, vous l'avez un peu abordé à l'instant, est-ce qu'à la limite, la comédie musicale ne serait pas plus prisée par les anglo-saxons que par le public français ou le public européen ?
Alors, je crois que la comédie musicale, le cinéma, oui, et même parfois a été méprisée en France. C'est à la fois culturel, parce qu'aux États-Unis, effectivement, ça a été inventé là-bas. Et puis en France, on a tendance à mépriser un peu la comédie, les choses légères, bien que la comédie musicale ne soit pas uniquement de la comédie, ça englobe tous les genres. Et puis c'est aussi un genre qui est plus, je dirais, plus sensuel, qui est plus en référence avec l'émotion qu'avec le cérébral. Et j'ai l'impression qu'il fut un temps où c'était un peu méprisé, ça va en train de changer.
Alors, vous l'avez abordé à l'instant, mais la comédie musicale, elle couvre un spectre très large. Hein. Ça va du porno, par exemple, avec une version hard d'Alice au Pays des Merveilles. D'ailleurs, vous en parlez dans votre dictionnaire. Ça va aussi jusqu'au western, par exemple, avec Cannibal the Musical en 96 de Trey Parker, Matt Stone, en passant par le cinéma d'auteur. Hein. Là, je pense à Rivette avec Au bas fragile.
Oui.
Comment vous avez fait, parce que c'est un spectre tellement large, pour choisir les différentes entrées de ce dictionnaire ?
Déjà, ça m'a pris beaucoup de temps. J'ai visionné beaucoup, beaucoup, beaucoup de films. Et puis, après, j'ai essayé de choisir. C'est déjà un dictionnaire amoureux. Hein. Il y a des choix qui sont subjectifs et revendiqués. Mais j'ai voulu aussi indiquer ce qui est les comédies musicales qui étaient particulièrement importantes par décennie. Qui avait eu une importance aussi sociale ou économique, artistique, bien sûr. Donc ça s'est construit comme ça, les comédies musicales dans les années 30, 40, 50, 60, 70, 80, jusqu'à nos jours. Et puis après par pays, effectivement.
Et justement, bah dans, c'est abordé dans le dictionnaire. Hein, y a des les comédies musicales traitent de tous les sujets. Hein, on a par exemple Air, qui va parler de la guerre. On va avoir Cabaret, Rocky Horror Picture Show aussi, qui commencent à être des films queer. Et je dirais même que le Rocky Horror Picture Show, c'est un film transgressif sur la libération sexuelle. Ce qu'on découvre un peu dans votre dictionnaire, c'est que la comédie musicale, en fin de compte, c'est un genre très politique.
Absolument, oui. Contrairement à ce qu'on croit, c'est pas juste des gens qui dansent et qui se mettent à chanter de façon rigolote, légère et sans fond. C'est en fait un genre, pour moi c'est vraiment un genre, c'est la quintessence du cinéma. On utilise tous les moyens de l'audiovisuel, en incluant la danse et le chant, pour exprimer des émotions, mais aussi pour faire passer un message. Et ce qui s'est passé avec le queer, effectivement, dont vous parlez. Mais c'est valable pour tous les sujets. Il y a aussi des sagas politiques, comme celle de Christophe Honoré dans Les Bien-aimés, par exemple, qui traverse complètement le siècle.
Alors, dans votre ouvrage, là, on ne parle pas que, même si c'est très bien hein, que vous les défendez d'ailleurs, mais on ne parle pas que de Stanley Donen et Jacques Demy. Il y a aussi des grands oubliés. Moi, je pense à une véritable légende du 7e art, par exemple. Moi, quand je l'ai découvert, j'étais scotché, c'est Busby Berkeley. Hein, et c'est un véritable précurseur. Il invente pour toute une grammaire cinématographique, hein, une façon vraiment unique de filmer les numéros musicaux. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus un peu sur Busby Berkeley? Et puis, est-ce qu'elle fait partie vraiment de... Est-ce que pour vous, c'est vraiment quelqu'un de très important dans la comédie musicale, dans son histoire?
Ah, historiquement, c'est quelqu'un qui est absolument incontournable, puisqu'il a effectivement inventé une façon de filmer avec des formes géométriques, en faisant tourner, en multipliant les caméras, les angles de vue. Mais à titre personnel, moi je suis moins fan que vous, j'ai l'impression que vous aimez beaucoup. Mais c'est parce que pour moi, Busby Berkeley avait une particularité, il n'était pas danseur. Sa formation, c'était une formation militaire, et je trouve que ça se sent dans ses chorégraphies. C'est extrêmement millimétré, c'est très carré. Et je trouve que j'y suis moins sensible à titre de spectatrice. Et puis il y a aussi une représentation de la femme qui est très datée, on va dire, qui est très uniforme. Mais sur son importance et sur l'évolution qu'il a permis, c'est évident. Il y a des choses, par exemple, avec Eleanor Powell, qui est une incroyable claquettiste, qui sont assez magiques, effectivement.
Moi, c'est surtout en termes purs de mise en scène hein, qui m'impressionne, en fait, dans tout ce qu'il met en place. Effectivement, c'est pas un traitement très de la femme très, comment dire, très progressiste, mais ce qui est intéressant, c'est la manière dont il filme la danse, quoi. Voilà. Mais effectivement, il y en a d'autres hein, qui me plaisent beaucoup, par exemple, et plus que lui, je pense à Bob Fosse, par exemple.
Ah oui, voilà. Pour moi, c'est l'exact opposé.
Oui, ben voilà. Donc c'est pour ça que je passe du coq à l'âne. Et moi, je trouve que Bob Fosse, en fait, c'est un cinéaste. All That Jazz, c'est fabuleux. Cabaret, c'est fabuleux. Sous Charity, un peu moins. Mais All That Jazz et Cabaret, c'est vraiment deux films énormes. Même Lenny, qui n'est pas une comédie musicale, mais qui est un film sur le spectacle aussi. C'est un mec qui a brûlé sa vie par les deux bouts, qui est parti comme ça d'un seul coup. Est-ce que vous... Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce cinéaste? Et puis, est-ce que vraiment... Enfin, moi, je considère que c'est un des réalisateurs les plus importants de son époque. Et d'ailleurs, pour moi, il va bien au-delà, sans que ce soit péjoratif, hein, mais bien au-delà de la comédie musicale. C'est-à-dire, pour moi, c'est un réalisateur total. C'est quelqu'un qui parle de la société, du monde qui l'entoure, et puis qui surtout développe des thématiques qui vont être qui sont les thématiques d'aujourd'hui, alors que c'était il y a très longtemps. Donc, enfin, il y a très longtemps, ça dépend pour qui, mais en tout cas, il y a quelques dizaines d'années. Et ben voilà, votre regard sur Bob Fosse, vous avez compris que moi, je l'aimais beaucoup.
Ben là, je crois qu'on partage vraiment la même vision. C'est pour ça que je mettais quelques restrictions sur Busby Berkeley, qui, je trouve, ne passe pas l'époque. Le temps fait qu'effectivement il reste une brillance dans la mise en scène, mais ses films sont très datés, ce qui n'est pas du tout le cas de Bob Fosse.
Some of these days, you a lot. And if you leave us, you know you're gonna grieve us. You're gonna miss your sweet little loving baby daughter, Michelle. Some of these days.
Don't start letting your blood bleed.
Some of these days.
You can't leave this poor little kid without a father.
Some of these days.
She needs you, Joe.
Écoutez Isabelle Wolguste, auteure du Dictionnaire de la comédie musicale, paru chez Vendémiaire.
Bofo, c'est un chorégraphe génial, qui a fait de la scène, mais qui a su, avec la caméra, mais transcender complètement le mouvement. Donc il y a effectivement une adéquation entre la forme et le fond qui est absolument géniale. Effectivement, le jazz, c'est formidable. Quant à Cabaret, c'est un chef-d'œuvre absolu qui a en plus, alors là, politiquement, changé complètement la donne sur l'expression du cinéma queer.
Ouais, c'est vrai que Bob Fosse, c'est quelque chose quand même.
Voilà.
J'ai revu un peu des films en fait pour préparer l'émission avec les chroniqueurs de l'émission et c'est vrai qu'on est resté scotché devant All That Jazz. D'ailleurs, on en parle un peu dans l'émission. D'ailleurs, pour cette émission, on a choisi trois films. Hein, je vais vous demander un peu votre avis sur notre choix. D'ailleurs, on a choisi All That Jazz, donc ça vous l'avez compris, le Rocky Horror Picture Show et West Side Story.
Bon bah écoutez, là vous êtes dans mon top 10 là.
Ah.
Ça fait vraiment partie des films que je préfère. Je dis même pas comédie musicale parce que c'est vraiment des films. Enfin, ce sont des films quoi. Je veux dire, c'est vraiment, quand vous parliez de réalisateur total pour Bob Fosse, c'est la même chose pour la comédie musicale. Je crois que ma passion de la comédie musicale, elle vient de là aussi, c'est que c'est vraiment du cinéma total.
Et votre livre, il va même au-delà d'ailleurs des acteurs, des metteurs en scène, des danseurs que vous aimez beaucoup, ça on le sent. Vous aimez beaucoup les danseuses, les danseurs et acteurs aussi, parce qu'ils jouent aussi. Même si pour certains, ça a été plus difficile, quand je pense à Sid Charis, par exemple, qui a eu une période difficile dans sa carrière. Mais vous parlez aussi, moi, de personnes beaucoup moins connues, des compositeurs, par exemple, peu connus en France, Stephen Sondheim, j'essaie de bien le dire, et des chorégraphes. Moi, j'avoue, par exemple, que je ne connaissais pas du tout Hermès Pan, que je découvre dans votre ouvrage. Comment vous avez fait, vous, pour choisir ces figures de l'ombre, justement, et pour aller chercher des infos sur ces personnages?
Hermès Pan, en l'occurrence. Mais Hermès Pan a travaillé tout le temps avec Fred Astaire. Donc, en l'occurrence, c'est un chorégraphe que je connaissais bien. Donc, c'était assez simple. Sinon, je suis allée aux archives. Je veux dire, j'ai vu des kilomètres d'archives. Et puis, en ce qui concerne les chorégraphes, moi, s'il y en a vraiment un qui m'épate, c'est Michael Kidd. Je ne sais pas si vous le connaissiez, mais c'est celui qui a fait la chorégraphie de Bandwagon, par exemple, où on voit Fred Astaire à la fin avec Sid Charis rentrer dans un bar de gangsters, où il a un style très athlétique. C'est absolument fabuleux. Puis ça s'inscrit complètement dans la narration.
Oui, c'est ça qui fait la force, je trouve, moi. C'est que ouais. Ça sert la narration du film. C'est pas un numéro qui vient pendant le film.
Exactement. C'est très compliqué en France de mettre en place, de financer en fait des comédies musicales. Mais c'est en train de changer parce que j'ai l'impression, depuis La La Land, il y a une qui a effectivement fonctionné, même si c'est pas du tout ma tasse de thé. Puis il y a aussi l'arrivée des comédies musicales sur scène qui fonctionnent maintenant en France. Et puis il y a aussi Glee, je pense que la série Glee a fait changer complètement le regard de la nouvelle génération sur la comédie musicale. Le dessin animé aussi, où on voit par exemple dans... Je ne retrouve plus le titre, effectivement, qu'il y a un dessin animé Pixar avec un robot tout seul. Ça vous dit quelque chose ?
Wall-E.
Wall-E, exactement. Avec Wall-E, où toute la structure est faite sur Hello Dolly, en fait.
C'est vrai. C'est vrai.
Donc il y a des choses comme ça ça rend les choses plus simples. Et il y a une expo effectivement à la Philharmonie qui est absolument magnifique. Et je me dis que maintenant effectivement il y a une possibilité pour que on puisse voir à nouveau des comédies musicales financées.
Alors, vous venez de dire un truc qui m'a fait beaucoup plaisir, parce que moi je n'aime pas La La Land, en fait. J'aime pas ce film, ça me plaît pas. Je trouve les personnages pas intéressants. Je trouve pas que c'est mal mis en scène, mais ça m'emporte pas, voilà. Mais pourquoi vous n'aimez pas La La Land, justement, voilà. Ça, c'est une question qui me vient parce que vous en avez parlé. Hein.
Pourquoi j'aime pas La La Land? Mais en fait, je trouve que La La Land est très bavard, ce qui est dommage pour une comédie musicale. Et puis, alors, vous en parliez tout à l'heure, j'aime effectivement la danse au cinéma. Je trouve que c'est vraiment... alors qu'il y a des arts de la scène qui perdent quand ils sont filmés, la danse, quand c'est bien filmé, ça gagne en émotion, en intensité. Et là, j'avoue que les deux comédiens en train de danser, qui sont en plus, qui font énormément de reprises de numéros célèbres de Fred Astaire ou de Sid Charisse, j'ai beaucoup, beaucoup de mal. Quoi. C'est assez plat, en fait.
Eh bien, on est d'accord. Hein. Voilà. pour conclure un peu cet entretien, j'ai envie de vous demander un petit coup de cœur, un petit conseil en termes de comédie musicale, ou pas qu'un seul d'ailleurs, hein, pour nos auditrices et auditeurs qui voudraient découvrir le genre, quoi, et puis vraiment prendre leur pied. Voilà.
Alors, prendre leur pied. Alors, il y a deux choses. Il y en a un qui est. C'est un petit peu vieilli, mais c'est. Mais il y a vraiment un numéro absolument magique qui est Cover Girl. Qui est un film de Charles Vidor avec Gene Kelly, où il y a un numéro alter ego qui est, en plus, alors, en termes d'invention et d'effets spéciaux, quand on pense qu'on est dans les années 40, c'est absolument abracadabantresque. C'est vraiment magnifique. Et puis, il y a forcément Jacques Demy. On est obligé de voir... Alors, dans les versions très connues, il y a Les Demoiselles de Rochefort et Podane. Et sinon, moi, il y a vraiment un film que j'aime beaucoup, qui est un film politique et un film sombre, qui a beaucoup moins marché de Jacques Demy, qui est Une chambre en ville. Qui est un film avec Dominique Sanda et Richard Berry dans les rôles-titres, et avec Daniel Darieux, qui est la seule qui chante.
Ouais, j'ai cru comprendre que vous aimiez beaucoup ce film, effectivement.
Ah, mais je pense qu'il faudrait lui redonner ses lettres de noblesse. C'est pas possible, c'est un chef-d'œuvre.
C'est vrai que moi, Jacques Demy, j'ai été traumatisé enfant par Peau d'âne, hein, ça m'a fait très peur. Donc j'ai beaucoup de mal avec Peau d'âne, par exemple.
Et qu'est-ce qui vous a fait peur? C'est les chevaux en rouge?
Je sais pas, ça m'a fait peur. L'ambiance générale du film, je la trouvais un peu morbide, pas légère en fait. J'étais petit, hein, mais ça m'a... alors que j'adorais La Belle et la Bête, qui n'est pas une comédie musicale, mais qui est un film censé faire peur aussi aux enfants.
Ouais.
Voilà, et ça m'a fait peur. Je ne sais pas pourquoi, mais je m'attendais peut-être pas à ça. Peut-être j'ai été désarçonné par le chant, j'en sais rien. Mais du coup, c'est pas resté dans mon panthéon. Le Peau d'âne, faudrait que je le revoie. Voilà, faudrait
que je le revoie. Revoyez avec des enfants aujourd'hui, c'est impressionnant. Hein.
D'accord.
Ça fonctionne. En tous les cas, moi, les enfants avec qui je l'ai revu, ça leur a pas fait peur.
Eh ben, très bien, et je vous remercie pour tous ces conseils. Alors, je vais le faire voir à ma petite fille, du coup, je vais voir ce qu'elle va en dire. Surtout que c'est ressorti dans une très belle édition. Ouais. Et ça fait la couverture du livre, hein. Donc je rappelle Dictionnaire de la comédie musicale, paru aux éditions Vendémiaire, donc par Isabelle Volguste. Donc. Et on vous remercie pour ces quelques minutes d'entretien, et on vous remercie pour votre livre, voilà, qui manquait effectivement aux cinéphiles fans de comédie musicale en France. C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Les Films de la Gorgone, www.lesfilmsdelagorgone.fr. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission, culture-prohibée.blogspot.fr. Culture Prohibée est une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier, dit la Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis, dit Admiral Lee. Une émission animée avec John Ferré, dit l'homme mystère. Thomas Roland, dit le loup-garou Picard, and the last but not the least, je veux bien sûr parler de Léo Magnin à la technique. Salut les gens, à la prochaine.
I'll be the same. À bientôt.